Pour une première expérience de dialogue, je vous propose, si vous voulez bien, d'avoir un tout petit temps de silence avec vous-même, chacun de nous, pour goûter ces paroles et l'écho que ça fait en nous. Voilà, quelques secondes. Et après, on aura un petit exercice de dialogue. Merci beaucoup.
Voilà, donc pour mettre en pratique ce que Denis Girard nous a magnifiquement bien amené du dialogue, qui est d'abord une expérience. On vous propose donc de vous mettre deux par deux, donc peut-être de vous rapprocher les uns des autres pendant quelques secondes, rapidement. Et on vous propose pendant 2 minutes, pas plus, de pouvoir dire à votre voisin ou à votre, et à votre voisine, l'un à l'autre, dans un dialogue justement, ce qui vous a marqué, ce qui vous a profondément... ce qui a résonné en vous par rapport à la conférence donc, que Denise nous a donnée. Voilà, donc juste 2 minutes, pas plus. Et après, donc, on passera au débat et on groupera les questions et on passera au débat. Voilà. Alors, on vous propose de revenir au silence et on va vous proposer donc de poser des questions. On va grouper les questions. Hein, on va grouper par 4, 5 questions à la fois.
Bon, je suis Marie-Caroline. En toute humilité, je voudrais simplement vous redire en un mot ou deux les 3e et 4e règles du dialogue. Merci beaucoup.
Merci de l'exposé. Effectivement, le sens des mots est différent envers chacun et on l'exprime autrement. Il y a un mot qui apparaît une seule fois et un autre que je n'ai pas entendu. C'est-à-dire, vous avez dit une seule fois le respect à la fin et vous avez dit à aucun moment amour. Or, pour moi, le dialogue, c'est à la base déjà le respect et l'amour pour être complètement ouvert. Donc, si vous pouvez développer.
Dans le vivre ensemble, j'avais l'impression que c'était plutôt le partage. Mais en fait, dans le partage, il y a un certain dialogue. Je pensais que le dialogue, c'était l'écoute. Et en fait, je me rends compte que l'écoute, c'est pas du tout le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez à cela? Et finalement aussi, est-ce que le dialogue amène la paix intérieure et la paix entre les hommes?
D'abord, je dois trouver les 3 et les 4 parce que parfois je les donne dans un ordre différent. Le troisième, c'est juger la tradition de l'autre par ses sommets et pas par ses sous-produits. Et le quatrième, c'est pour avoir un principe organisateur. C'est-à-dire qu'il faut laisser, l'autre devrait savoir d'où on parle, le sens des mots. Oui, j'ai dit ça à la fin, mais j'ai dit tout au début aussi, quand je parlais de cette réunion à Rome, j'ai parlé de dialogue et ce respect qui est nécessaire. Et si j'ai parlé de la cèse, c'est en fonction de ce respect qui devrait être c'est exigé, hein, ouais. Le respect exige une certaine exigence, mais c'est une exigence qui est de l'ordre relationnel aussi. Donc, j'ai pas dit l'amour, on ne va pas faire défiler toutes les vertus. J'ai pas dit humilité, j'ai pas dit pauvreté, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit. Mais dans le dialogue, évidemment, tout ça c'est compris parce que, d'un certain sens, quand je dis que dans le dialogue, on a ce respect de l'autre qui est tellement énorme qu'on reconnaît que c'est un mystère qu'on n'aura jamais. Mais ça, c'est de découvrir. Quoi que ce regard, c'est un regard d'amour, même si je n'ai pas utilisé le mot. Mais je crois que vous serez d'accord avec ça. Ça, c'est fondamental dans l'amour, avoir ce regard mutuel. Dans le vivre ensemble, on a cette partager. Mais je crois que le dialogue, je crois qu'il y a plusieurs mots qui sont très, très proches de dialogue. Et un de ces mots, c'est partage, parce que je partage avec quelqu'un aussi. Il y a toujours ce partage, donc on doit être convaincu que l'autre a quelque chose à donner. Ça serait pour moi presque un synonyme de dialogue. Et puis il y a un autre mot qu'on peut utiliser aussi, que je viens d'oublier. Il y a un autre mot aussi qu'on utilise souvent qui est un synonyme de dialogue. Échange, voilà. Un échange, ça implique qu'il y a quelque chose qui vient des deux côtés. C'est très positivisant. Ça aussi peut être un synonyme. Le dialogue, c'est toujours ce dynamique, ce qui est nécessaire, c'est ce dynamique et ce regard sur l'autre qui reconnaît qu'il est ce mystère qu'on n'aura jamais cessé de découvrir, qui fonde mon engagement dans le dialogue, mon désir de partager avec lui, d'échanger avec lui, de grandir avec lui aussi. Ça va? La dernière, l'écoute n'est pas le dialogue. L'écoute n'est pas le dialogue, mais il n'y a pas de dialogue sans écoute. C'est assez clair. L'écoute, c'est une partie essentielle du dialogue, mais si tout ce que je fais, c'est d'écouter, c'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est, oui, j'écoute, mais aussi je parle et l'autre écoute. Sans cela, c'est asymétrique. Mais vous savez, c'est un des problèmes. Je vais parler des problèmes de dialogue. J'ai plusieurs amis qui, avec les bouddhistes, tout ce qu'ils font, c'est écouter. Parce que, vous savez, j'ai écrit ce livre, le Lotus ou la Croix, les raisons d'un choix. J'ai écrit ce livre parce que beaucoup de gens pensent que je suis bouddhiste. Parce que quand je parle en public, quand on me dit de parler de bouddhisme, même à l'Institut catholique, j'ai enseigné dans cet esprit, on m'a demandé de expliquer le bouddhisme de manière telle que s'il y avait un bouddhiste présent devant moi, il dirait oui, c'est ça que je crois et j'en suis fier. Parce que si je ne fais pas ça, je suis en train d'étriquer, on peut dire, le bouddhisme. Ce n'est plus le bouddhisme. Alors, ça, c'est trop facile. On peut présenter des choses, mais ça. Mais si les gens me disent oui, je. Mais le côté qui pose problème parfois, pour moi, c'est que les gens pensent que je suis bouddhiste et je sais qu'il y a des gens qui sont devenus bouddhistes parce qu'ils ont lu mes livres. Et je croyais qu'il fallait être clair avec les gens. Et donc, j'ai écrit le Lotus ou le Quoi, les raisons d'un choix, où j'explique que oui, tout le respect pour. J'ai pour le bouddhisme, mais voilà pourquoi je suis chrétien. Mais parmi mes amis et souvent des prêtres qui sont impliqués dans le dialogue avec les bouddhistes, ben, ils ont dit, mais il ne fallait pas dire ça, il ne faut pas les écrire ce livre, il ne faut surtout pas donner ce titre parce que vous donnez l'impression qu'il y a un choix à faire entre le bouddhisme et le christianisme et la foi chrétienne. Et moi, j'ai dit, mais honnêtement, je crois qu'il y a un choix à faire, on ne peut pas être les deux, c'est deux cohérences différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bénéficier de certaines choses dans le bouddhisme pour aller plus loin dans la foi chrétienne et vice-versa, etc., pratiquer les zazen, tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas de quelqu'un un bouddhiste. Donc, les chrétiens, mais ça, c'est l'écoute. On l'écoute, mais on ne dit pas ce que nous fait vivre. C'est par respect pour l'autre, disent-ils. Parce que l'autre, peut-être que ça va choquer le. Ça, c'est une. Je crois que c'est un problème. On est paralysé par toutes les images de missionnaires du passé, du 16e, 17e siècle. Et il faut. Si on va dialoguer, on veut dire ce qu'on croit quand même. Et les bouddhistes, quelle était leur réaction à ce livre? Ça m'a consolé un peu parce que les bouddhistes, ils m'ont remercié parce qu'en disant qu'il y a un choix à faire, ils avaient les sentiments d'être des vrais interlocuteurs dans un dialogue. Je reconnaissais qu'ils étaient autres, qu'ils avaient quelque chose à dire, que le bouddhisme tient comme étant une tradition face au christianisme et pas quelque chose, on va prendre des choses pour enrichir la pratique chrétienne. Ouais. Donc c'est très complexe cette question. Donc l'écoute, absolument essentiel, mais l'écoute sans parler, ça peut être mal reçu par les autres. Parce que les autres pensent que nous aussi, nous devons nous engager et dire ce que nous fait vivre vis-à-vis d'eux. Ça, c'est la dernière question. Ça. Non, je crois qu'on peut demander d'autres.